nzamba
nzambira samirana
Nous sommes le jeudi 9 septembre 2021. C'est le moment du journal en français sur la radio Nzamba Agatekakawe. Tout d'abord les titres. Le procès contre le procureur de la République de Bururi s'est conclu par une peine d'un an de prison requise contre lui. Il est poursuivi entre autres d'avoir violenté une jeune fille mineure de 17 ans à Nyanzalak. L'Église catholique et les défenseurs des droits de l'homme convergent sur la nécessité de rendre justice à Mgr Joachim Ruhuna, 25 ans après son assassinat. Dans ce journal, vous suivrez notamment Mgr Simon Amwana dans son homélie au cours de la messe célébrée pour l'occasion. Et puis, en fin de journal, nous parlerons de ce second revers consécutif de l'équipe nationale de volley-ball. Les joueurs burundais ont perdu tout espoir de se qualifier pour le prochain tour de la CAN qui se déroule à Kigali. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Valérie Mucho. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Nous sommes le 9 septembre, cela fait 25 ans jour pour jour que Mgr Joachim Ruhuna a été assassiné. Ce prélat catholique ne cessait de prôner le pardon et la réconciliation des Burundais au plus fort de la guerre civile durant les années 90. Un héritage rappelé par Mgr Simon Amwana dans son homélie au cours de la messe célébrée à cette occasion à Gitega au centre du pays. Un esprit qu'il faut renforcer pour le bien des Burundais, a-t-il dit. Écoutons Mgr Simon Amwana.
Imyaka 25 iraheze turacyafitiwe umwenda
25 ans après ils ont toujours une dette pour nous qui avons perdu ces personnes. Nous sommes encore fâchés du fait que nous les Burundais n'avons pas encore eu la vérité sur celui qui nous a fait des orphelins. Nous pleurons toujours cachés sans le montrer à personne car personne n'a su essuyer les larmes que nous versons. Nous n'avons jamais su qui a tué notre parent et nous l'a privé. Ainsi, nous sommes restés désolés. Aujourd'hui, nous, la famille de l'église à Gitega, avons pris cette date comme un souvenir à notre situation d'orphelin, mais aussi une occasion d'implorer les uns pour les autres l'esprit de pardon et de réconciliation en mémoire à notre cher parent. Nous avons voulu que ce jour soit une occasion pour nous de mettre en œuvre son héritage. En plus, il aimait bien souvent enseigner sur le pardon et la réconciliation. Si nous sommes réellement des chrétiens, on ne peut pas se passer des malheurs causés par nos péchés. Des fois, nous sommes à l'origine de ce péché, et d'autres fois, les autres pêchent contre nous. C'est pour cela que nous devrions nous associer au Christ dans le combat de pardonner.
Cela est inacceptable de voir que 25 ans après l'assassinat de Mgr Ruhuna, la justice n'a jamais bougé sur le dossier. C'est le coup de gueule du réseau des citoyens probes. Gervais Libigida, le vice-président de ce réseau de la société civile, demande à la justice et à la commission Vérité et Réconciliation d'enquêter sur ce dossier afin que justice soit rendue. Une tâche qui s'annonce toutefois ardue selon maître Gervais Libigida. Il faut savoir que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui dirige le pays aujourd'hui, est responsable des crimes commis à cette époque. Écoutons-le.
Ici, on rappelle que même son corps avait été enterré dans des lieux qui n'étaient pas connus, et c'est après 10 jours que son corps a été trouvé. Donc aussi, on rappelle qu'il était le président de la paix, parce que ça faisait 2 mois qu'il avait célébré une messe à la province de Bugendana, où il y avait plus de 600 personnes qui avaient été assassinées par le groupe des rebelles du CNDD, et il avait appelé à tous les bergers là d'arrêter la guerre, mais aussi de favoriser le retour à la paix. Donc, c'est une personne qui était le président de la paix. Ici, on nous demande aussi à la commission Vérité et Conciliation de faire des enquêtes sur l'assassinat de ce ministre pour qu'il y ait la lumière, pour qu'il y ait aussi la justice et pour la famille, mais aussi pour tous les chrétiens qui aujourd'hui attendent la justice pendant plus de 25. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de justice, ça ne va pas donner une leçon à quiconque qui penserait à faire des assassinats. Et c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait cette enquête, mais aussi la justice, pour que ça donne une leçon aux futures générations, mais aussi que ça donne une bonne image à la justice burundaise.
Retour sur les faits, Mgr Joachim Runa a été assassiné dans la commune Bugendana, dans la province de Gitega, au centre du pays, une province dont il était l'archevêque. Alors qu'il rentrait du séminaire de Burasira, il est tombé dans une embuscade en compagnie de deux sœurs qui ont également perdu la vie. La FDD, Force pour la Défense de la Démocratie, branche armée du mouvement rebelle CNDD à l'époque, a été accusée d'avoir tué le prélat. Le point avec Blaise Nijimbele.
Mgr Joachim Runa, ancien archevêque de Gitega, a été assassiné le lundi 9 septembre 1996, tout près de la rivière Mubarazi, séparant les communes de Bugendana et Mutaho, dans la province de Gitega. Il sortait de la messe à la paroisse Gitongo, en provenance du grand séminaire de Burasira, où il assistait à la réhabilitation de cet établissement qui venait d'être attaqué par un groupe armé. Au moment où il rentrait au couvent à l'archidiocèse de Gitega, accompagné de deux sœurs catholiques, il est tombé dans une embuscade d'un groupe armé. Il a été sauvagement tué avec les deux religieuses avant que son véhicule soit calciné. L'FDD, Force pour la Défense des Démocraties, branche armée du sein d'FDD, principal mouvement rebelle, ont été pointés du doigt par les autorités du pays de cette époque comme auteur de l'assassinat du prélat. Pendant les funérailles de victimes des massacres des Tutsis à Bugendana en juillet 1996, Mgr Runa, s'adressant aux meurtriers de la rébellion, à l'époque le CNDD, proclamait dans son homélie que ces crimes sont un scandale contre l'humanité qui visait les Tutsis, que les auteurs seront maudits pour erreurs comme Caïn après avoir tué son frère Abel.
Maudits, ils sont en train de vivre. Un criminel ne dort jamais. Il a toujours des remords et les malédictions se poursuivent. Dieu demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait? Tu mourras errant. L'enfer dont parle la Bible est celui-là. Il commence ici sur terre.
L'archevêque de Gitega, Mgr Joachim Runa, a été inhumé dans la cathédrale de Gitega, dans le centre du pays, après que l'armée nationale ait retrouvé son corps à 3 km du lieu de l'embuscade, puis a coûté la vie.
Merci Blaise Nijimbele. Radio Nzamba, Agathe Kakawe, vous écoutez le journal en français. Quelques secondes de pause et on se retrouve pour la suite.
Nzamba.
Un an de prison, c'est la peine requise contre le procureur de la République de Bururi. C'était lors d'un procès qui s'est tenu à huis clos ce mercredi à Makamba. Argikol Ndaitwayeko est accusé d'avoir causé des lésions corporelles à une jeune fille mineure de 17 ans en fracassant une chaise contre elle. Le procureur de Bururi a demandé que l'audience ne soit pas publique afin d'échapper à l'œil des médias. Le point avec Vanessa Moiteka.
Ce procès contre le procureur de Bururi, Agricol Ndaitwayeko, s'est tenu à huis clos à la cour d'appel de Makamba ce mercredi. La demande d'une audience à huis clos a été formulée par Agricol Ndaitwayeko au début de l'audience publique de peur que son procès soit diffusé sur les médias. Les juges ont décidé en faveur du procureur, même si la partie plaignante a dénoncé une violation de la loi car les autres séances se sont tenues en audience publique. Agricol Ndaitwayeko est accusé de lésions corporelles simples contre une mineure Thierry Vitangimana, âgée de 17 ans. C'était en mars dernier. La jeune fille a dû en conséquence arrêter ses études. La première audience publique s'était tenue le 28 juillet dernier. Agricol Ndaitwayeko avait soulevé le souhait de présenter des témoins à décharge pour l'audience qui suivra, selon une source à la cour d'appel de Makamba. Les témoins à décharge n'ont pas pu donner des arguments convaincants aussi longtemps qu'ils n'étaient pas présents au moment des faits. Agricol Ndaitwayeko a enfin reconnu sa culpabilité et a demandé à la cour de réduire sa peine à des mois de prison au lieu d'une année requise par le ministère public. Le procès a été mis en délibéré par la cour d'appel de Makamba.
Il a été arrêté sur de fausses accusations. C'est un certain Rémi Sekadje. Il est en détention préventive depuis 2 semaines à la prison centrale de Mimba à Bujumbura. Rémi est accusé d'enlèvement. Cependant, Samson Mutohira, supposé avoir été enlevé par Rémi, serait hospitalisé dans une structure sanitaire à Bujumbura. L'origine du contentieux serait des conflits familiaux et sa famille demande sa libération. Les précisions de cette affaire avec Beni Axelakan.
Rémi Sekadje vient de passer 23 jours en détention préventive dans la prison centrale de Mimba. Il est accusé d'avoir enlevé un octogénaire, Samson Mutohira. Il a été envoyé en prison par le procureur près la cour d'appel de Mukadza, Claude Habimana. Les proches de la famille du détenu Rémi Sekadje indiquent que le leur est en détention sur de fausses accusations. La personne qu'il est accusé d'avoir enlevé se trouverait aujourd'hui à l'hôpital Kira de Bujumbura. Et d'ajouter que Rémi Sekadje, sur demande de Christophe Mutohira, le fils de Samson Mutohira, qui habite à l'étranger, il lui a accompagné à l'hôpital. Une action qui n'aurait pas plu à sa marâtre Konsili Nguimugwa. Cette dernière a alors alerté le parquet, portant plainte sur enlèvement de son mari, alors qu'il savait qu'il était à l'hôpital. Rémi Sekadje a répondu à la convocation le 18 août de l'année en cours et après audition, il a été conduit directement en prison. Lundi dernier, Rémi Sekadje a été auditionné par la chambre de conseil pour statuer sur sa mise en liberté provisoire ou pas. La décision de la chambre devrait être rendue par la chambre de conseil en 48 heures et ça fait plus de 72 heures d'attente. Les proches de sa famille crient à la parodie judiciaire.
Lundi de la semaine en cours, Rémi Sekadje a comparu dans la chambre de conseil de la cour d'appel de Mukaza. Ceux qui ont comparu avec lui ont été déjà signifiés de la décision de la cour. Mais nous sommes toujours en attente de cette décision. Nous ne comprenons pas comment quelqu'un peut conduire une personne à l'hôpital et être accusé de son allègement après. Ça n'existe nulle part, sauf au Burundi.
La famille de Rémi Sekadje demande à toute personne qui le peuvent de plaider pour sa libération et demande le renforcement de sa sécurité une fois qu'il est libéré.
Nous demandons à tous qui le peuvent de plaider pour le nôtre. Nous ne voyons pas les motifs de sa détention. La personne qui l'est accusé d'avoir enlevé une semaine après, il était à l'hôpital militaire et par après, référé à l'hôpital Kira et il est avec sa femme. Ils sont au courant de toutes ces informations. Nous demandons aussi sa protection parce qu'ils ont juré de l'éliminer.
Les informations que Radio Inzamba, Agathe Kakawe, détient des sources à l'hôpital militaire de Bujumbura, Samson Mutohira a été sorti de cet hôpital vers l'hôpital Kira l'après-midi de ce mercredi. Les conflits entre Konsili Nguimugwa, secrétaire de la mairie, et marâtre de Christophe Mutohira, fils héritier de Samson Mutohira qui habite à l'étranger, seraient à l'origine de l'emprisonnement de Rémi Sekadje. Radio Inzamba n'a pas encore eu la version du procureur près la cour d'appel de Mukadza, Claude Habimana, ni celle de Konsili Nguimugwa qui sont pointés du doigt pour être derrière l'emprisonnement de Rémi Sekadje.
La déclaration des biens des hauts cadres de l'État est l'un des principaux facteurs qui permettrait de lutter contre la corruption. C'est en substance le contenu d'un document que l'association PARSEM, Parole et Action pour le Changement des Consciences et des Mentalités, vient d'envoyer au président de la République et aux plus hautes autorités du pays. Suivez Faustin Dikoumana, le président de l'association PARSEM.
Ce document contient beaucoup d'actes, mais en résumé, nous sommes revenus sur la déclaration des biens. Les plus hautes autorités sont invitées de déclarer les biens comme l'exige la Constitution à son article 95, la loi anticorruption à son article 29, la loi de la Cour suprême à son article 38. Cette loi de la Cour suprême aussi donne même un avertissement des éventuelles poursuites judiciaires quand il advenait que ces autorités n'observent pas cette règle. Beaucoup doivent déclarer bien pour montrer que le respect de la chose publique n'est plus en 20 mois. Et l'autre main important, il faut éviter que des cadres de l'État continuent à avoir des doubles casquettes, avoir des salaires, opérateurs économiques, et se retrouver des marchés, en dehors de toute procédure de passation de marché. Le cas qui vient, par exemple, d'avoir lié, qui est au cadre du Sénat, là, les investigations devraient aller loin pour voir les procédures de passation de marché, si elles ont été respectées par la SOSUMO et d'autres entreprises publiques, pour décourager ce comportement. Même des poursuites judiciaires devaient être engagées. Cette situation provoque une concurrence déloyale où les plus hautes autorités verraient même faire des affaires faussées et les conditions et qui doivent régir le déroulement des activités du secteur privé.
Et parmi les principaux axes pour une lutte efficace contre la corruption, l'association Parsem note aussi la transparence dans l'octroi des marchés publics et la transparence budgétaire. Encore une fois, Faustin Ndikoumane.
Et les institutions professionnelles de lutte contre la corruption doivent jouer leur rôle en recueillant la direction générale de l'État, la Cour des comptes et une éventuelle brigade spéciale d'investigation sur les crimes financiers. Donc, renforcer le professionnalisme d'investigation. Il faut que des enquêtes arrivent loin, faites par des institutions professionnelles dotées des moyens suffisants. Et où vit donc la justice à pouvoir réprimer les corrupteurs et les corrompus. La justice doit être indépendante, doit avoir des moyens suffisants, il ne faut plus la contenir, il faut lui donner toute l'indépendance nécessaire pour agir. Et la mise en service, comme par exemple la Haute Cour de justice, et la force qui doit être accordée à la Cour suprême, voir comment renforcer l'inspection de la justice. La justice doit être indépendante. Et le cadre légal de lutte contre la corruption qui doit être amélioré. On avait montré dans le passé les lacunes de ce cadre légal. Il faut parvenir à l'adapter aux standards internationaux comme d'autres pays le font. Donc la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et la Convention de l'Union africaine. Et après, il faut inviter la population à aller dans ce qu'on appelle un cadre de dénonciation de la corruption avec force, les syndicats, les journalistes, les citoyens. Et il faut qu'il y ait une loi qui protège les dénonciateurs des actes de corruption.
C'est une sélection qui crée la controverse au sein des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie. Il s'agit des membres d'une délégation désignée pour une visite prévue très prochainement au Burundi afin de s'enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. Ils ont été désignés par le responsable du camp qui représente le gouvernement tanzanien. Or, certains des membres de cette future délégation de réfugiés sont inscrits sur les listes des candidats au rapatriement volontaire. Et c'est là où le bât blesse. Les autres réfugiés doutent de l'objectivité du rapport que cette délégation leur présentera à son retour du Burundi. Plus de détails avec Raoul Nguruze.
Les membres de cette délégation ont été sélectionnés par les chefs des zones, les chefs de village et des représentants des églises au camp de Nduta. Ces derniers ont été désignés mardi dernier selon les sources sur place. Et le fait que certains de ces religieux ont déjà manifesté la volonté de rentrer n'inspire pas confiance aux autres réfugiés qui craignent que leur rapport ne les condamne à un sort dont ils ne veulent pas.
Les personnes choisies sont déjà sur la liste des rapatriés. Ce sont des personnes dont une partie de leur famille est déjà au pays. Et là, nous nous posons la question de savoir est-ce que réellement le rapport qu'ils vont donner sera un rapport impartial ou ce sera un rapport biaisé.
Les réfugiés voudraient avoir voix au chapitre dans la sélection des membres de cette délégation.
Là, ils devront choisir des personnes réellement qui sont des refugiés, de telles personnes qui reviendront avec un rapport correct et qui, de retour, nous diront la vérité. Sinon, c'est un jeu d'enfant, c'est un jeu de cache-cache, c'est pas vraiment quelque chose qui va nous rassurer. Ils reviendront avec le même discours que les autorités tanzaniennes et burundaises.
Au sujet de cette grogne, nous avons essayé de joindre par téléphone le responsable du camp de Nduta en Tanzanie, mais il n'a pas décroché son téléphone. Des sources du camp de Nduta révèle que la délégation qui se rendra au Burundi y séjournera pendant 2 semaines.
Et terminons par le sport et le volley-ball. La sélection nationale masculine vient de subir sa 2e défaite d'affilée en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce tournoi qui se déroule à Kigali au Rwanda, les Burundais faisaient face ce jeudi à l'Ouganda. Et les Ougandais qui ont fait preuve d'une nette supériorité en écrasant les Burundais par 3-7-0. Et avec cette défaite, le Burundi est éliminé d'office. Il lui reste encore un match à jouer qu'il va livrer demain, vendredi, contre le Burkina Faso. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Merci également à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.